Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran. C'est parti pour un tout nouveau numéro après une petite pause. On est de retour, c'est parti pour la dernière ligne droite avant la fin de la saison pour commenter toute l'actu média de la semaine. Elle est encore riche. On va dans les débats de la semaine, on va parler de cette annonce surprise, celle de Jarry qui quitte l'animation du jeu de midi. Tout le monde veut prendre sa place. On va parler du dispositif de secret story qu'a présenté cette semaine TF1 avec donc une super la fin des prime, des hebdos en prime et donc une super quotidienne le vendredi, plus l'accent mis sur le feel good et moins sur les clashs. On va en parler. On parlera également de la polémique Guintin Bataillon dans Touche pas mon poste, le président de la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences TNT donc dans TPMP avec des propos qui critiquaient Yann Barthès. On va en parler. Puis on parlera également du retour des jeux en prime time en force. Hein. Les chaînes ont vu le succès des jeux de Cyril Ferrand en prime time sur France 2. Et ben là, on va beaucoup en manger déjà en prime time entre le maillon faible avec Vincent Dedienne sur M6 ou encore le retour de Qui veut gagner des millions pour les 25 ans du jeu avec Arthur. On en débattra également. Et justement, ben, pour débattre, il faut des chroniqueurs, il faut une équipe. Et cette semaine, j'ai avec moi Benji. Salut Benji.
Salut Yacine, salut tout le monde.
Merci d'être avec nous également. Avec nous, on a Dab Baptiste. Salut Baptiste.
Bonjour Yacine, bonjour à tous.
Et également avec nous, ça fait très 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 longtemps, on est ravis de l'avoir avec nous, il y a Damien. Salut Damien.
Salut Yacine, bonjour à tous.
Voilà, alors dans un instant, les débats, mais comme d'habitude, on ne change pas une formule qui gagne, on attaque tout de suite avec le jeu de la semaine, c'est parti, c'est l'heure du C'est quoi l'info. Quoi l'info, c'est donc simple, on va donc aborder des infos médias qu'on n'abordera pas lors des débats à partir d'une citation, d'un chiffre ou encore d'un nom d'une personnalité. Vous devez retrouver l'info média qui se cache derrière. On attaque tout de suite avec cette première citation. Qui a dit cette semaine, on n'est pas des policiers. On n'est pas des policiers. On n'est pas des policiers, on n'est pas des juges. Voilà, la phrase complète. Qui a dit ça cette semaine?
Oh, le silence.
Alors, ah ben c'est bien, ça veut dire que j'ai trouvé... Ah, alors est-ce que Benji... Vas-y.
Ah non, aucune idée. Alors, ah, mais...
alors pour vous aider un peu, c'est un dirigeant qui a dit ça au sujet d'un événement.
Je sais pas,
Damien, Nicolas Taverneau, non, c'est pas ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Et sur quoi? Sur quelle affaire?
C'est sur Stéphane Plaza avec les accusations qui avaient été...
Exactement. C'est ça, c'était cette semaine, il était interrogé par la presse, par les journalistes médias, et donc il est bien évidemment revenu sur l'affaire, le cas Plaza, et donc il a dit ceci, on n'est pas des policiers, on n'est pas des juges, on regarde, on reste attentif. Pour l'heure, l'animateur est mis en examen, il va être jugé en fin août, à la fin de l'été, au tribunal correctionnel pour violence psychologique sur deux de ses ex-compagnes. Et donc, il a dit que lui, il a fait le nécessaire. Il a fait une enquête interne avec Media One, le producteur de ses émissions, et que voilà, il restera attentif à la suite de la tournure judiciaire donc pour Stéphane Plaza. Donc, on verra ce que ça donnera maintenant pour l'animateur d'M6, qui pour l'instant a maintenu à l'antenne le temps de... Le temps donc que le procès aura lieu donc à la fin de l'été. Ça fait un point pour Damien, bravo à toi. On continue avec cette deuxième, et c'est le nom d'une personnalité qui a fait beaucoup parler cette semaine, Manu Lévy. Pourquoi Manu Lévy?
Benji.
Ah, c'était Baptiste le premier.
Par rapport à... Il est accusé, entre guillemets, de... Merde, d'harcèlement au travail par rapport à sa matinale.
Oui, c'est ça.
Plusieurs collaboratrices ont porté plainte, entre guillemets.
C'est ça, c'est une enquête de Libération cette semaine. Alors c'est vrai que ça bruissait un peu depuis plusieurs semaines qu'une enquête allait sortir sur lui. Et donc c'est sorti cette semaine, c'est Libération qui révèle donc des faits d'harcèlement moral. Et d'ailleurs, il y a quatre anciens de ses collaborateurs qui ont porté plainte contre lui pour harcèlement moral. Ils font état donc d'un contrôle extrême, d'une charge de travail immense, d'excès de colère ou encore de blagues sexistes ou homophobes. Alors lui, il a nié tous ces faits, hein. Il affirme que voilà, lui, il est exigeant au travail et que en aucun cas il a blessé ses anciens collaborateurs. Il a aussi eu le soutien de nombreuses personnes du métier, notamment Nagui, Arthur, Karine Lemarchand, même Valérie Benahim qui a travaillé avec lui, l'a défendu cette semaine dans Touche pas à mon poste. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment pour le groupe Énergie entre Coé et ses affaires d'agression sexuelle et de viol, et maintenant Manu Lévy, lui qui fait par contre, qui est soutenu par la direction d'Énergie, par Gaël Sanquer. Donc là aussi, ça va être une affaire à suivre de très près, donc avec ces quatre plaintes donc, contre de la part de quatre anciens collègues contre Manu Lévy. Un point pour toi, Baptiste. On continue avec Le Parisien. Pourquoi Le Parisien a fait l'actu média cette semaine? Alors, c'est un peu compliqué. Le Parisien, en fait, il c'est pas une info en tant que telle, mais c'est des critiques sur les réseaux sociaux au sujet de au sujet d'une affaire, voilà, qui a fait beaucoup parler. Pourquoi Le Parisien? Alors, c'est un peu compliqué, je l'avoue, c'est une info média, c'est au sujet d'une affaire dont on a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup de critiques. Vas-y, Benji.
Ils n'ont pas pu enquêter sur Danse avec les Stars, alors c'est ça.
Alors si, alors c'est, en fait c'est ça, c'est au sujet de Danse avec les Stars, mais c'est plus une critique éditoriale du service média du Parisien. Justement sur une affaire de Danse avec les Stars. Je pense que vous allez finir par trouver. Non.
Non.
On est en train de réfléchir, c'est pour ça.
Non. Bah allez, je vous la donne alors. Parce qu'en fait, cette semaine, Le Parisien, il y a un article, a pas moins consacré plus de 10 articles sur l'affaire Inès Reg, Natacha Saint-Pierre. C'est hallucinant, le service. Alors, ça a dû sûrement faire du clic sur le site web du Parisien, mais j'ai repris quelques titres cette semaine en moins de 10 jours, hein, sur l'affaire Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, avec la fameuse insulte petite salope et les menaces de plainte aussi pour je me souviens plus, j'ai le mot en tête mais je l'ai plus, pour menace je crois, ou je sais plus quoi. Et donc il y a eu plusieurs articles en à peine 10 jours. Par exemple, là j'ai en tête celui-ci, alors attendez que je le retrouve. Voilà, Danse avec les Stars, leader mais en baisse après le clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Après un autre jour, ça ne sera plus une émission, ça sera pas une émission spéciale. Après le clash, à quoi va ressembler Danse avec les Stars? Danse avec les Stars, pourquoi Inès Reg et Natacha Saint-Pierre se déchirent? Il y en a eu encore plein d'autres, hein. Là, affaire Danse avec les Stars, une ultra altercation avec Inès Reg, donc Mask Singer. Il y en a eu après une autre, les événements sont clos, assure Camille Combal après le clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Comment TF1 tente de gérer l'affaire qui secoue Danse avec les Stars, donc pas moins de 10 articles, et c'est vrai que c'est impressionnant. Même BFM TV en a fait un sujet en invitant une ancienne danseuse de Danse avec les Stars. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que les médias ont surtraité ce sujet? Peut-être Damien.
Alors, est-ce qu'ils ont donné trop d'importance à un sujet qui paraissait minime? Oui. C'est clair, on en a fait, tout le monde en a fait des caisses. Après, s'ils font autant d'articles, comme tu le disais au tout début, c'est aussi qu'il y a du clic derrière. Moi, je me suis posé la question quand même, parce que c'est vrai que Le Parisien, il y a eu, au-delà de l'affaire Inès Reg, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'articles qui concernent Danse avec les Stars. Est-ce qu'il n'y aurait pas, j'en sais rien, une sorte de partenariat entre les deux ou autre? On sait que Le Parisien, ils ont une rubrique culture-loisirs, qui est quand même dédié à ce qui se fait en télévision. Donc, qu'ils parlent de ce qui se fait en télé, ça ne me choque pas. Après, qu'ils en viennent effectivement à faire de cette micro-affaire quelque chose de presque gravissime, dramatique. Et à donner une telle importance à cette affaire-là, ça, effectivement, ça interroge sur la priorité de l'information pour Le Parisien.
Moi, je pensais que, honnêtement, le clash entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, ça allait bénéfique à l'émission, mais en fait, pas du tout. Hein.
En fait, le public, Twitter, c'est pas le public, c'est ça, moi, je savais.
Non, on est d'accord. Mais parce que, forcément, tous ceux qui n'ont pas Twitter le savent quand même. Et en fait, je pense que le concept est totalement usé. Et ça a été ringardisé en même temps par l'émission qui a été faite par Michou sur Twitch. Donc, je pense que le concept, il est totalement usé, mais de chez usé, quoi. C'est...
Parce que pour l'instant, Benji, on le rappelle, là, il y avait eu des bons débuts, mais là, ça fait quelques vendredis où ça s'étiole plutôt autour des 3 millions. En tout cas, il y a eu une baisse par rapport au premier numéro.
Ça a fait un très, très bon démarrage hein, par rapport à ça. Mmh. J'ai autant qu'en terms de voice, donc c'était quand même très, très positif pour l'émission. Et c'est vrai que là, sur les dernières semaines, ça baisse. Après... ça a jamais été Dal, ça a jamais été une émission où ça se maintenait, ça montait au fil des émissions non plus, mais bon alors après voilà, on va voir sur là. Je trouve quand même que TF1 a déjà annoncé que la finale serait là fin avril. Je trouve que l'émission ça fait pas ultra long, je m'attendais à que ce soit plus long que ça.
Oui, parce qu'après ça va sûrement enchaîner avec Mask Singer début mai.
Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il restera exactement 6 semaines avant le début de l'Euro, où TF1 diffuse le premier vendredi le match d'ouverture. Donc, si vous voulez caser Masked Singer, forcément, il fallait terminer Dals, là. Après, moi, je pense que, clairement, si Dals avait maintenu proche des 4 millions vraiment sur toutes les semaines, je suis pratiquement convaincu que Dals aurait été beaucoup plus long. Ils auraient mis 2-3 unités à la suite et Masked Singer aurait été préservé
pour la rentrée.
Et que ouais, vraiment, c'est la baisse là, de ces dernières semaines de Dals qui fait que l'émission va s'arrêter plus vite que prévu.
Ben voilà, alors donc pas de point pour le Parisien. Donc on reste toujours à un point entre Baptiste et Damien. Et peut-être Louis qui nous a rejoint. Salut Louis, qui va peut-être gagner le dernier point avec cette dernière citation. Alors c'est pas une citation, c'est un mot, une école de musique. Une école de musique.
Non, les questions d'aujourd'hui, oh là là.
Ah non, mais c'est clair, quoi.
Eh ben, parce que la dernière fois, j'ai fait des choses faciles, vous avez trouvé en 2 secondes. Donc là, je me suis dit,
il faut faire un autre niveau, merde.
Oui, là, je vais revenir sur des questions faciles.
Il n'y a pas d'intermédiaire.
Alors, une école de musique, c'est au sujet d'un gagnant d'un télécrochet. Bon, là, vous allez vite trouver.
Bah, Baptiste, Pierre Lassarac.
Oui, mais quoi, faut être un peu plus précis.
Franchement,
normalement, si vous réfléchissez, vous allez trouver gagnant de la Starac, école de musique.
Damien, qu'est-ce qu'aurait dit Pierre Garnier au sujet de la Starac?
Non.
C'est une école de musique.
C'est une école, c'est une action qui va être faite en l'honneur de
Damien, est-ce qu'il n'y a pas une école de musique qui portera le nom de Pierre Garnier dans son village, en Normandie?
Exactement, Villedieu-les-Poêles, bravo.
Exactement.
C'est donc une initiative donc d'un élu local qui va être soumis dans les prochaines semaines donc pour féliciter le gagnant donc de la Star Academy pour le rayonnement donné à ce village. C'est vrai que maintenant tout le monde quasi connaît Villedieu-les-Poêles, donc ça va être proposé, soumis au vote, et donc c'est quand même une info pour dire quand même voilà, la Starac encore 2 mois après. En tout cas, je vois sur les réseaux, il y a encore plein d'hashtags sur la tournée en ce moment, il y a plein de vidéos.
Après, il y a la tournée aussi, donc
sur Twitter qui circule. C'est vrai que en tout cas sur les réseaux, l'effervescence autour du programme est toujours au rendez-vous. C'est vrai que c'est dingue. Donc voilà,
je pensais pas que la tournée allait attirer autant, parce que c'était risqué de refaire une tournée, parce que la dernière tournée, je crois qu'elle est de 2006 ou 2005.
Oui.
Donc c'était risqué de lancer une tournée. Hein. Mais bon, après,
les Zénith sont plein à craquer en ce moment, ce week-end. Donc,
ils sont en Belgique. Pour eux, et je pense qu'ils vont refaire une nouvelle tournée pour la nouvelle promotion.
Ouais, donc voilà, c'était cette initiative. Et ben c'est Damien cette semaine qui remporte avec 2 points.
Quel retour.
Bravo Damien, quel remontada, hein, on te félicite cette semaine. Donc voilà, on va tout de suite passer au débat, c'est parti, c'est l'heure du Ça fait débat. Fait débat, on va donc démarrer par l'annonce surprise, celle donc de Jarry qui a annoncé donc son départ du jeu de midi de Tout le monde veut prendre sa place sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram cette semaine. Donc il a annoncé qu'il allait quitter le jeu en fin de saison. Donc a priori ça sera après les Jeux paralympiques. Donc début septembre, comme l'a indiqué la direction de France Télé à Pure Média. C'est à peine un an donc après son arrivée, il quitte déjà le jeu. Le jeu va donc avoir un quatrième animateur ou animatrice. La productrice Simone Harari a confirmé que donc le jeu sera maintenu à la rentrée. Donc les pistes sont de nouveau ouvertes. Alors qui pour reprendre le jeu? Le nom de Sarah Padoua, l'animatrice belge, c'est un serpent de mer. Ça revient à chaque fois, comme je le disais en off, revient à chaque fois. Louis, peut-être sur ce départ de Jarry qui avait misé beaucoup sur l'humeur, l'humour, qui avait fait progresser un peu le jeu. Hein. La productrice l'a dit, le jeu a quasiment gagné 2 points d'audience par rapport à la saison dernière. Donc qu'est-ce que tu en penses de ce départ et donc de France Télé qui va devoir rechercher un quatrième animateur pour son jeu de midi?
Moi je suis assez déçu en fait que j'arrive. En même temps, je comprends, bon, s'il a tourné tout ça, qu'il a assumé plutôt. C'est parce que je trouve que quand même par rapport à Laurence Boccolini, pour le coup, Jarry, ça n'a strictement rien à voir en termes de style d'animation. Déjà, il est debout, il est quand même beaucoup plus. Je vais pas non plus dire qu'il ressemble à un Nagui, parce que je trouve qu'il est encore dans une autre. C'est-à-dire qu'il fait encore autre chose. Pour moi, c'est encore un autre style. Mais pour le coup, je trouve qu'il est. Je trouve qu'il est vraiment. Je trouve qu'il était vraiment bon à l'animation. Après, honnêtement. C'était le risque quand même pour France Télévisions. Jarry, sa carrière n'est pas d'être animateur en premier. Il est humoriste avant. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, il y allait avoir une collusion entre sa carrière d'humoriste et justement le fait qu'il ait sa carrière d'animateur. Alors, est-ce que, parce qu'il y a des rumeurs qui iraient peut-être sur M6, bon, on ne sait pas, mais actuellement, je suis quand même assez dubitatif en fait sur ce que va faire France Télévisions, parce que tu vas chercher qui maintenant? Tu vas chercher un animateur qui va rester longtemps, et si tu négocies avec lui, tu vas signer pour combien de temps? Parce que on va pas se mentir. Tout le monde veut prendre sa place, c'est une marque qui dure. Et que peu importe les animateurs, globalement, c'est pas tellement. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas l'animateur qui. Parce qu'on a eu trois styles quand même très différents. Ce n'est pas l'animateur qui va faire le jeu finalement. Ce n'est pas ça. À moins que vraiment que l'animateur soit vraiment, ou l'animatrice soit vraiment catastrophique, et que ce soit. Et que la personne ruine le jeu. Ça n'a, pour moi, le jeu est plus fort que l'animateur. Mais donc. À ce moment-là, pour éviter de faire la valse des animateurs chaque année, quand même, il faudrait peut-être signer avec quelqu'un pour au minimum 2-3 ans. Ce serait quand même, à mon sens, l'enjeu. Et donc, ensuite, derrière, je n'ai pas d'idée sur savoir qui pourrait remplacer. Il n'y a personne qui me fait véritablement envie, qui me dit « Ah, mais oui, ce serait cette personne-là qui devrait prendre le relais ». Donc voilà, j'avoue.
Il n'y a pas de nom qui sort pour. Et surtout, moi, ce qui m'a fait tilter, c'est que la productrice, elle dit oui, mais de toute façon, ça restera dans la lignée de Jarry. Mais je veux dire, un Olivier Mine ou un Bruno Guillon, c'est pas dans la lignée de Jarry. C'est ça que. Elle dit oui, on va pas changer la formule qui gagne qu'a installé Jarry. Donc ça aussi, j'ai pas très bien compris.
Peut-être que Bruno Guillon, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre, Bruno Guillon, parce qu'on voit les scores qu'il fait dans Chacun son tour qui m'ont l'air. Qui sont quand même très bons. Et on peut peut-être lui upgrader son poste, entre guillemets.
Baptiste, qu'est-ce que t'en penses, toi, du départ de Jarry?
Je suis un peu du même avis que Louis, quoi. J'ai un peu dubitatif, entre guillemets. C'est... On dirait qu'il n'a pas trouvé sa place, entre guillemets. Bon, en même temps, c'est un humoriste. Mais si Nagui, qui l'a révélé hier dans C'est l'Hebdo, et qu'il l'avait prévenu en octobre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.
Ça peut être deux mois après.
Tu peux pas prévenir Nagui, entre guillemets, en octobre dernier. Enfin, Nagui, je te le dis, j'ai quitté la. L'émission à la fin de la saison. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas en interne. Quoi ? On ne sait pas et je pense qu'on ne saura pas.
Maintenant, après, il y a des rumeurs qui disaient que la productrice est un peu... strict sur les nouveautés. Voilà, que ouais, c'est vrai bah, que, pareil, que par exemple, Jarry qui voulait peut-être. Et d'ailleurs, elle lui a laissé un peu, parce qu'il a changé quand même des choses. Il a fait des émissions à thème, il a supprimé des questions, il y a un peu plus de vannes, ouais, il y a un peu plus d'humeur, donc quand même, il y a eu des changements. C'est vrai qu'en tout cas, elle est frileuse sur les modifications du jeu. Donc peut-être c'est, un c'est... conflit avec
si
la productrice.
Si elle est contre les nouveautés, il ne fallait pas les faire. Alors, désolé, c'est elle la productrice, c'est pas Jarry. Jarry est juste là pour animer. Et après, pour succéder à Jarry, c'est vrai que je vois pas qui peut succéder, en fait. C'est ça le problème. Parce que si ça fait comme le coup de Jarry, tu fais juste ça pour un an, ouais, c'est pas terrible, quoi. C'est... Après, je vois pas... avant que Jarry soit annoncé, il y a eu tellement de noms qui a été proposé.
Jarry, à l'époque, c'était une surprise, c'est vrai. Que
oui, personne... c'est une surprise, mais entre guillemets, il y a eu tellement de noms qui sont sortis, surtout un peu en interne. Mais là, je vois pas qui...
Alors peut-être, Damien, est-ce que pourquoi pas une femme? C'est vrai qu'une animatrice en jeu... ça pourrait peut-être surtout France Télé qui veut être précurseur sur la présence féminine sur leur antenne. Est-ce que ça peut être une piste?
Alors déjà, moi, je trouve quand même ça dommage, surtout pour l'émission de manière générale. C'est vrai que Jarry, comme l'a dit Louis, en peu de temps, avait réussi à rebooster l'émission, que ce soit au niveau des audiences ou de la dynamique de jeu. Et quand même, il faut souligner que c'était un sacré défi. Il y avait peu de gens qui y croyaient au tout début, parce que passer derrière Nagui et Laurence Boccolini, qui sont quand même deux gros monstres sacrés de la télévision, c'était pas évident. Et Jarry, qui est humoriste, pour le coup, a réussi à insuffler autre chose. Il a ce côté, un peu comme le disait Louis, très proche des gens et bienveillant, ce qui manque un peu à Nagui, il faut le reconnaître. Et c'est vrai qu'il est retourné physiquement auprès des candidats, ce que ne pouvait pas faire Laurence Boccolini en raison de ses problèmes de santé, et qui avait du coup insufflé une dynamique un peu plus solennelle au jeu. Donc on avait réussi, je trouve, avec Jarry, à avoir un jeu qui était quand même beaucoup plus dynamique et agréable à regarder. Alors la question que tu me poses, c'est de savoir qui pour le remplacer. Alors si on reste dans la vibes humoriste, comme le veut la productrice de l'émission, pourquoi pas Arnaud Gidoin ou Olivier de Benoît ou un Walidia. Sinon, j'avais pensé à Jean-Marie Bigard, mais je me suis dit qu'on passerait à une autre nouvelle de l'émission.
Moi, j'avais vu passer Vie.
Ce serait pas une mauvaise idée. C'est ça,
j'avais
le truc.
Vu passer Vizorek aussi, vu qu'il est sur Télématin. Bah, après...
Mais si on veut un changement de style total et repasser peut-être un côté...
plus réduire comme animateur.
Pas tant solennel, mais quelque chose de... Voilà, un autre style qu'un humoriste, je me dis pourquoi pas une Julia Martin comme ça avait été proposé à l'époque, ou une Catherine Matoche qui n'est plus sur France 3 maintenant, qui est une ancienne journaliste et qui pour le coup pourrait créer la surprise, voilà, dans un autre style. Sinon, Eric Amoulet qui est dans un entre-deux, pourquoi pas.
Bah oui, pourquoi pas aussi Sophie Davant, voilà, tant qu'on y est.
Ou Anisha de la Starac, hein, voilà, il y a plein de monde qui pourrait animer ce jeu.
Ou Jackie et Michel en même temps, mais bon. Après,
non, n'allons pas jusqu'à là. Bah justement, tu me donnes la transition, on va passer. Bon, je sais pas si c'est une transition.
Je croyais que t'allais passer à Benjamin, j'allais dire.
Non, mais c'est vrai. Mais peut-être
que quand tu m'as dit, parfait, tu m'as donné la transition et je sors Jackie et Michel. Là, tu me posais des questions, de quoi on va parler.
Je voulais passer à Secret Story, mais vu qu'on a tout dit, mais peut-être c'est Benji qui voulait rajouter peut-être un mois avant.
Non, mais tout a été à peu près dit. Oui. C'est vraiment dommage pour l'émission que j'arrive pas, parce qu'en termes déjà d'audience, puis même le jeu avait vraiment pris une autre vibe, et puis franchement, c'était vraiment bien ce qu'a fait Jarry et ce qu'il a modernisé. Après, vraiment, qui pour l'emprunter? Déjà, là, déjà, il y a une première question à répondre avant ça, c'est est-ce que tout le monde peut prendre sa place? Continue. Parce que le jeu.
De ce qu'elle a dit, Simone Harari, sur Pure Media, oui, le jeu continue.
Elle est productrice, donc oui, elle veut que le jeu continue, mais c'est pas elle qui décide en soi. Je veux dire, France Télévisions, ils ont 5-6 mois pour trouver un autre jeu. 5 mois, ouais.
Et Christophe de Chabanne, qu'est-ce qu'il fait, lui?
Ah non. Donc. Voilà, le jeu, il s'effondre.
Mais toi qui étais fan de Christophe?
Oui, j'ai changé, voilà. Les imbéciles qui ne changent pas d'avis, voilà. Non, après de passer de Jarry à de Chavannes, là les gens ils vont faire une dépression, les pauvres. Non.
Faut se mouiller la nuque.
Ouais, non. Non, non, il est très bien en coupant la parole à Léa Salamé, dans quelle époque, ça suffit. Mais ouais, c'est vrai, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, peut-être que, mais je vois, personnellement, je vois pas France Télé changer de jeu. Je pense qu'à mon avis, ça va être encore
en mode. Et tu veux installer quel jeu derrière? C'est ça le truc.
C'est ça, voilà. Repartir d'une feuille blanche, moi, j'y crois
déjà,
pas.
Déjà, pour installer un nouveau programme en début de saison, c'est catastrophique maintenant. Mais alors.
Sauf que Jarry continue quand même jusqu'à septembre. Hein. Donc,
oui, non, mais changer de jeu en septembre.
Mais j'y crois pas trop. Moi, je pense
Et avec les 12 coups de midi qui cartonnent tous les jours, bon courage. Hein.
Justement, quand tu vois que deux jeux font 60% de part de marché chaque jour à midi, tu te dis qu'il y a de la place. Quoi. Je veux dire, peut-être qu'un très bon jeu et ça fait 30% de part de marché. Et surtout quand tu sais que oui. Bruno Guillon, lui, avant, il arrive à faire 25% quasiment chaque semaine. Donc en vrai.
En face sur TF1, t'as les feux de l'amour. Hein, donc tu m'étonnes que ça fait de bons scores.
Ouais, mais pour le coup, avant, il y avait des amours. Les amours, ça faisait 15%. Bruno Guillon, il est arrivé. Il a d'abord fait 15%, puis 17, puis 20, puis 22, et maintenant, il est à 25. Donc, en soi, il y a
d'abord. Il a fait progresser.
Un nouveau jeu, en 2-3 ans, peut s'installer et arriver largement à 25%.
Ouais, mais est-ce que maintenant, France Télévisions prendrait le temps d'installer des jeux? C'est ça le problème.
Mais la case de 11h est moins importante que celle du midi.
Et moins importante,
Tu peux le facilement lancer, mais c'est vrai que de toute façon, toutes les pistes sont à suivre, on verra ça. Donc, et puis on verra aussi la piste M6 qui a été évoquée par Clément Garin, peut-être pour reprendre le meilleur pâtissier et la France a un incroyable talent. Alors là, Damien serait déçu si Karine Le Marchand lâche la France a un incroyable talent et que c'est Jarry qui...
Oh mon Dieu, ça serait un choc.
Quoique, Jarry, ça pourrait être drôle, hein, franchement, avec, entre les prestations, oui, les candidats.
Bien sûr, il y a quand même déjà Eric Antoine dans le jury, tout ça. L'humoriste a déjà sa place dans l'émission, on n'a pas besoin de la seconde. Ouais, non, ça va faire double.
Ouais, bon, ça sera toujours mieux que l'animation froide de Karine Le Marchand.
Allez, je prends ça dans la gueule, Karine Le Marchand.
Je fais ça parce que je sais qu'il est fan de Karine Le Marchand.
Après Philippe Etchebest, là c'est Yacine qui en rajoute une couche, mais alors bien sévère.
Alors, on va passer à un autre... On va parler de Secret Story. Hein. Ça y est, donc, TF1 a présenté le dispositif de la télé-réalité qui va revenir donc le mardi 23 avril à 23h, juste après l'épisode de Koh-Lanta. Donc, fini les hebdos en prime. Donc, maintenant, il y aura une super quotidienne le vendredi où sera annoncé le candidat qui sera éliminé. Donc, des quotidiennes du lundi au vendredi à 17h30 sur TF1, puis rediffusées après 20h sur TFX. Les nommés seront donc désignés le mercredi et donc l'éliminé, comme je le disais, sera annoncé le vendredi. L'after, lui, sera diffusé uniquement sur TF1+, donc sur la nouvelle plateforme de TF1 en ligne. Au nouveau sujet donc de la maison, le producteur Endemol a affirmé qu'il s'agira de la plus grande maison jamais construite, donc plus de 1000 mètres carrés de jardin, une piscine de 40 mètres carrés.
En forme de lavabo.
Oui, en forme de lavabo, c'est très bien
en
de
plus,
le préciser.
Faut préciser,
Jean-Baptiste. Tu as raison, faut être précis dans les faits. Alors, au sujet du casting, TFA a dit on a voulu un casting qui ne soit pas là pour devenir Instagrammeur, montrer ses nouveaux tatouages ou son corps parfait. Et TFA indique, mais ça sera une émission avec des aspérités, a promis tout de même. Donc, ça sera pas non plus les bisounours. Donc, c'est vrai que ça va être un peu intéressant de voir ce que vont faire. Parce qu'on dit que TFA veut en faire un peu sa façon des traîtres, avec des jeux, des suspicions, des stratégies. Mais d'un côté, on dit, on veut que quand même il y ait des aspérités, qu'il y ait un peu des affrontements. Donc ça va être intéressant à suivre. Et à noter qu'il y aura tout de même un live. Donc il sera tout de même réduit par rapport à celui de la Starac. Ça sera 2h en fin de matinée et 2h en début de soirée sur TF1+. Pour les précisions. Et toujours, comme je le disais, ça sera Christophe Beaugrand à l'animation de ses quotidiennes. Donc a priori, ça sera pas comme la Starac. Ça sera pas une animation
oui,
il lancera des séquences, il animera les quotidiennes, ça sera pas un tout en image comme la Starac. Donc tout ce dispositif, qu'est-ce que ça vous inspire, est-ce que vous y croyez ou pas? Donc a priori ça sera pas un Secret Story d'antan comme à l'époque avec IM, Benoît et compagnie. On sera plus dans la bienveillance, dans le jeu, dans la stratégie du type les traîtres. On va démarrer
avec... Tu te souviens, Yacine, on en a parlé ici d'un retour de Secret Story possible. Tu te souviens, on avait dit s'il y a un retour possible de Secret Story et qu'il n'y ait pas de clash, ça ne va pas fonctionner. Tu te souviens, on l'a tout dit ici.
Mais c'est au début.
S'ils veulent faire un Secret Story sans clash, c'est impossible.
Bah, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont littéralement dit en conférence de presse.
Honnêtement, c'est impossible. C'est totalement impossible de faire une émission comme Secret Story, emblématique de la télé-réalité, sans clash.
Mais moi, parce je suis que... d'accord. Dans ce cas-là, voilà. Fallait pas relancer Secret Story s'ils voulaient pas.
Ah voilà, on est d'accord, parce que tu vas voir des choses à l'image qui vont être sans doute coupées entre deux clashs et tu vas pas comprendre pourquoi certains candidats disent telle ou telle chose. Maintenant, le prime en deuxième partie de soirée après Koh-Lanta.
C'est le prime de lancement, ça. C'est le mardi.
Ah, c'est juste après, le prime de lancement. Ah oui, moi je pensais que. Il y aurait de. Donc d'accord.
Il y a plus d'hebdo en première ou seconde partie de soirée. Le nominé sortira le vendredi soir à la fin de la quotidienne de vendredi et l'after, sa réaction à son élimination, tout ça, ça sera uniquement sur le web, sur TF1+.
Ouais. Ouais, bah, ce qui était agréable aussi de regarder Secret Story, c'est quand il y avait les primes. Parce qu'il se passait beaucoup plus de choses quand il y avait les primes que quand il y avait les quotidiennes.
Et peut-être qu'ils n'étaient pas confiants au niveau audience.
Maintenant, après, si ça fonctionne niveau audience et que, etc., bah, et qu'ils ont eu raison de relancer Secret Story, bon, bah, écoute, on aura peut-être des primes la saison prochaine. Mais moi, honnêtement, je pensais qu'il y aurait des primes tous les mardis après
Koh-Lanta.
C'est
juste le prime de lancement pour...
Merci, j'avais pas vu ça en tout cas de ma part.
Mais si on peut informer les gens, voilà.
Bah ouais, on se couchera moins bête ce soir. Mais non, c'est une émission sans clash, c'est impossible. C'est totalement impossible. Maintenant, si les quotidiennes fonctionnent un peu comme la Starac, parce qu'on se souvient tous, hein, on a fait un débat sur la Starac avec les quotidiennes à 17h30. Il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui...
Les familles nombreuses, en ce moment, c'est la cata à niveau audience. Donc,
et pas beaucoup d'entre nous n'y croyaient. Donc, si ça fonctionne comme Secret Story, ça peut faire des bons scores. Et en plus, il y a la rediffusion sur TFX. Donc, à voir.
Louis, donc sur ce, merci Baptiste. Louis, toi sur donc ce dispositif, une émission plus familiale, moins de clash, plus de prime en hebdo, un renforcement du web, donc avec l'after et ces 4 heures de live en quotidienne.
Je vais être honnête, j'ai pas véritablement d'avis en fait sur Secret Story. En fait, j'ai vu le retour, j'ai vu le dispositif et en fait j'ai envie de dire ok, on verra.
Pourquoi
mais
pas
en fait c'est que je n'ai aucune idée de ce que ça peut faire. Je sais pas quel public on peut encore viser. Ouais, d'accord, mais bon. Je suis pas d'accord avec Baptiste sur le fait que pour que Secret Story marche, il faut qu'il y ait des clashs, parce que moi en fait je pense que Secret Story ne peut pas marcher sans clash, mais je pense aussi que Secret Story ne peut pas marcher avec des clashs. Donc en fait, je ne sais pas comment cette émission pourra fonctionner. J'ai vraiment beaucoup de mal à voir ça. J'ai regardé, il y a à peu près 15 à 20% de la population qui est insomniaque, donc ce sera le public avisé pour la première du mardi, puisque elle se finira à 2h30 du matin, donc je pense que...
Oui, c'est vrai.
Donc je pense qu'il y aura des opportunités. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi le vendredi, en fait, il y a une élimination qui se fasse un peu en catimini. Donc ça, je pense que ça va faire
moi,
un peu de mal.
Ils avaient peur peut-être des scores en hebdo, je sais pas.
Je suis d'accord, peut-être, voilà.
Ils ont privilégié... Mais...
T'avais peur que ça se casse la gueule
le vendredi à 23h, ou peut-être s'ils voulaient le faire le mardi, mais ça dérègle tout en fait, les nominations.
Bah, oui,
tu fais les nommer le vendredi, peut-être ils avaient moi, pas la bonne rampe de lancement.
Non mais à mon sens, à mon sens,
surtout que le vendredi c'est dalle,
cette programmation et la façon dont ça a été présenté, à mon sens c'est pas innocent. À mon sens, on sait qu'il y a des bras de fer. Il y a eu un bras de fer pas possible à TF1 pour savoir si on reprenait ou on reprenait pas le format. Ça, on le sait.
Parce qu'il y a eu
mais à mon sens, le présenter comme ça, Le fait que l'élimination se fasse dans une discrétion la plus totale, le fait, parce que c'est à 17h30 quand même, alors la Starac faisait 1,5 million de téléspectateurs, ok, ça marchait sur cible, mais ça faisait que 14% de part d'audience, hein. Il faut aussi dire ce qu'il y a. Donc, les éliminations qui se font en catimini, le prime qui commence très tard et qui se finira très tard, le fait que ça se termine, enfin que ce sera un Secret Story version très accélérée, sur un mois et demi. Avec tous ces éléments,
ça sera
moi,
jusqu'au début de l'Euro.
Je pense très sincèrement, oui, bah un mois et demi, quoi. Je pense très sincèrement que ce programme, il n'est pas aidé par la façon dont on lui a présenté, etc. Et qu'on se raccroche à les petits morceaux. Oh, ce sera la plus grande maison des secrets. Bon, d'accord, super, mais bon, c'est pas l'info du siècle. Moi, je pense très sincèrement que cette... je vais aller au bout de ce que je pense. Je pense que quand on a présenté cette secrétorie-là, je pense qu'on a fait en sorte de signer l'arrêté de mort du programme. Parce que pour moi, ça ne va pas marcher. Voilà.
Tu n'y crois pas?
Je n'y crois pas une seconde. Je trouve que c'est... je trouve que c'est un peu... C'est très alambiqué. Et que... Ouais. On savait qu'Arapriquian ne voulait pas ce programme. Et bien, d'une certaine façon, en faisant un compromis, en proposant
quand même,
ce programme...
Ils n'auraient pas gaspillé des millions non plus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on sent qu'il n'y a pas un engouement.
Ils n'y croient pas comme le retour de la Starac. Quoi.
Voilà. Mmh. Bon, quand même, ils ont eu un gros dispositif. Il y a la voix qui était à la RATP, je ne sais pas, vous avez vu cette semaine le buzz où il y a la voix qui a annoncé justement le retour de Secret Story et Christophe
Bourrand. C'est bien, c'est une belle idée.
Parce que moi, honnêtement, si j'aurais mis, il y a Mask Singer là qui arrive derrière Dals, on est d'accord.
Oui, mais c'est vrai que c'est compliqué, tu ne peux pas faire Secret Story après.
Moi, honnêtement, j'aurais mis plutôt Mask Singer en septembre, après The Voice Kid, trouver un superflu par là et mettre Secret Story en deuxième partie de soirée, parce que là avec aucun prime on dirait que TF1 se jette une balle dans le pied tout seul, et je pense que ça va être ça.
Et moi, je pense que tu mets Secret Story en prime, ça se ramasse hein, sur TF1.
Ah, mais on est d'accord. C'est pour ça que je disais Secret Story en deuxième partie de soirée.
Ouais, mais ça aurait pu. Ça m'aurait pas choqué, tu vois, de passer.
Passé à l'époque sur TFX, faut pas oublier, au bout d'un moment, ils ont dévié les dernières saisons sur TFX. Hein,
mais ça m'aurait pas choqué de voir, honnêtement, les Secret Story après l'Euro. C'est-à-dire à 23h, tu changes complètement. Et en deuxième partie de soirée.
C'est une contre-programmation,
ouais. Tu fous de Secret Story à 23h15, ça gêne personne.
C'est pas faux. Et ça revient à ce qui était avant Secret Story.
La première saison, elle a démarré en plein été, faut pas l'oublier non plus.
Ils ont fait ça avec le talk d'Alain Chabat, ça n'a pas rencontré son succès.
Non, mais en fait, ce qu'il n'a pas rencontré son succès avec le taux d'Alain Chabat, c'est que le taux d'Alain Chabat démarrait trois quarts d'heure après la fin du match. Il faut que tu le coupes direct à un moment donné. Il y a un contre-exemple, la Star Academy, la finale de la Star Academy l'an dernier, qui s'est faite juste après le match, et il y a eu 3 minutes de décalage. Finalement, qu'est-ce qu'elle a fait la Star Academy? Elle a fait 25% de part d'audience après, ce qui était énorme. Donc, c'est qu'une question d'horaire de programmation. Hein.
Alors, attends, Baptiste, parce que quand même, je dois passer la parole à Benji et Damien qui n'ont pas commenté Benji.
Sur votre point de le mettre après l'Euro, le problème étant que TF1 n'aura pas énormément de matchs. Enfin, il y aura une dizaine de matchs en prime, mais sur 6-7 jours étalés. Enfin, ça peut être lundi, mardi, etc. Donc, c'est pas comme la Coupe du Monde où ils avaient un match à 20h tous les jours. Là, ce ne sera pas du tout le cas. D'un coup, ils vont avoir 3 matchs en 3 jours, le dimanche, lundi, mardi. Ils vont avoir qu'un seul vendredi avec un match, ils n'en auront pas de mercredi, enfin, vous voyez, pas de jeudi plutôt.
Oui, parce que c'est l'Euro, t'as raison.
C'est compliqué de mettre ça après l'Euro comme ça. Moi, franchement, j'y crois pas du tout à Secret Story. Alors, qu'est-ce que ça a donné un lancement après Koh-Lanta? Franchement, j'en ai aucune idée. Camille Image a beaucoup de mal en se terminant à 1h du matin. Ils font 500 000 téléspectateurs. Secret Story, si ça va vraiment jusqu'à 2h30 du matin, est-ce qu'on sera à 400 000 téléspectateurs, ce qui sera quand même un gros flop, hein, un lancement de Secret Story à 400 000 téléspectateurs.
Oui,
voilà. Donc voilà. Et après, les quotidiennes, bon, alors, ça vient en plus dans une case sinistrée pour TF1, où il y a une rediff de Famille Nombreuse, puis un inédit, qui ont du mal ensemble à dépasser les 700 000 téléspectateurs et les 8% de parts de marché. Au fond, est-ce que le Secret Story va être plus fort ou moins fort que Juste Prix? Si Secret Story est en principe à peu près tout le temps en dessous de Juste Prix, on considère déjà que le Juste Prix, c'est pas une bonne audience. Alors, pour TF1, pour une marque comme Secret Story, ce sera clairement un flop. Et j'ai du mal à voir Secret Story faire 1 million, 1 million 2, 1 million 4.
Tu vois pas faire les mêmes scores que les quotidiennes de la Starac?
Je vois absolument pas les quotidiennes de la Starac. Je vois même des scores largement en dessous de million. Enfin, je vois un flop déjà. Et je vois largement des scores en dessous de million.
Ça va finir comme à la carré VIP. Hein, ils coupent la télé-réalité au bout de 2 semaines. C'était ce qui s'était passé à l'époque.
Ouais, enfin, la différence, c'est qu'à
la VIP, ils vont pas faire ça parce que sinon, ils se mettent une balle dans le pied tout seul. Vu le pognon qu'ils mettent en jeu.
Ben, Damien, pour finir, toi, donc sur ce route. Finalement, là, il n'y a pas trop d'avis positifs. Alors, est-ce que peut-être, toi, tu vas rejoindre le camp positif ou pas?
Bah, disons que ce qui a été vendu, quand même, pour le moment, laisse penser à un retour de l'émission en demi-teinte. Pour moi, Secret Story, ça reste quand même avant tout des quotidiennes, mais aussi une hebdo en seconde partie de soirée le vendredi soir. Et là, visiblement, c'est pas possible. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir si TF1 n'avait pas la place pour relancer totalement l'émission. Pourquoi, en fait, pourquoi vouloir le faire? Pourquoi vouloir le mettre? Est-ce que c'est pour répondre à une soi-disant demande sur les réseaux? Est-ce que c'est parce qu'ils ont voulu surfer sur quelque chose, sur le succès de la Starac? Pour rappel, tu parlais du live de la Starac tout à l'heure, mais le live de la Starac, il était quand même assez large. Ça permettait aux gens quand même de pouvoir suivre quotidiennement les candidats. Et pour le coup, c'est aussi ce live qui était très long qui a réussi. Qui a permis à l'émission de trouver son public. Là, si Secret Story nous propose un live de 4 heures par jour, je ne suis pas certain que ça permette aux gens...
Pas divulgué, spoiler les enquêtes, voilà. C'est ce qu'a dit
André. Mais du coup, je ne suis pas certain que ça permette aux gens d'adhérer réellement au programme. Et voilà, pour clôturer le tout, pardon, mais nous vendre une émission feel-good, bienveillante, c'est quand même... particulièrement à contre-courant de ce qu'est l'émission à la base. C'est-à-dire que, certes, on entend bien que TF1 ne veut pas rentrer dans des polémiques quotidiennes avec des signalements qui seraient faits au CSA parce qu'un tel aurait dit ci, un tel aurait dit ça. C'est vrai que, mine de rien, la télé a évolué, la société aussi. Donc, beaucoup de choses qui ne faisaient pas polémique à l'époque feraient polémique aujourd'hui. Et c'est malheureusement, c'est ce qui vient aussi compromettre un retour à succès de Secret Story. C'est que l'émission devra, de fait, être un minimum censuré s'ils ne veulent pas passer leur temps à devoir régler des amendes auprès du CSA ou alors à choquer la bien-pensance présente sur Twitter. Donc oui, c'est un retour qui apparaît aujourd'hui très compliqué.
Oui, ils ne peuvent plus faire le Secret Story d'il y a 6 ans ou 7 ans.
Bah, c'est impossible. Hein.
C'est impossible. Donc on verra ça, on suivra de très près. Moi, en tout cas, quand même, j'aurai un œil curieux pour voir que ce soit le casting et puis voir comment ça va se passer au niveau quotidien et nouveau audience. Bien évidemment, on commentera tout cela. On continue avec les chaînes de télé et les jeux télé, puisqu'on en a parlé déjà, le succès des jeux de Cyril Ferraud, que ce soit le Quiz des Champions ou 100% Logique en prime time le samedi, bah, ça inspire les autres chaînes télé également à lancer des jeux en prime time. Et donc, on a appris cette semaine que TF1 prépare des prime anniversaires pour les 25 ans de Qui veut gagner des millions. Donc, après un retour en 2019 avec Camille Combal, cette fois-ci, c'est Arthur qui va animer donc cette session anniversaire qui sera tournée au Palais des Sports à Paris avec d'ailleurs un invité surprise, plus surprise, parce que maintenant, on le sait, ça sera Jean-Pierre Foucault, l'animateur historique, qui sera le candidat le temps d'une soirée. Donc, plusieurs primes qui vont être enregistrés prochainement avec l'animateur de Vendredi Tout est Permis. Au même moment, on en avait déjà parlé il y a quelques semaines, il avait démenti, puis finalement ça a été confirmé, l'humoriste Vincent De Dienne va bien également animer plusieurs primes, plusieurs numéros pour du maillon faible sur M6. Ça sera diffusé en prime avec des célébrités. Il y a eu d'ailleurs une petite bande-annonce qui a surfé un peu sur ça, sur cette contradiction qui a été diffusée sur le compte d'M6. Et puis au même moment, on a également appris que France 2 allait lancer un nouveau quiz présenté par Bruno Guillon en prime time. Il y a un appel à candidature qui a été lancé. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ce retour en force de ces jeux en prime time? Damien, tiens, pour commencer, que le retour de Qui veut gagner des millions pour le temps de soirée anniversaire, le maillon faible et plus globalement donc les jeux en prime time. plutôt qu'en access, même si on en a parlé, il y a déjà eu le juste prix en pré-access qui a été lancé il y a quelques semaines sur M6.
Alors, on a quand même souvent ici parlé de l'esprit de nostalgie que pouvaient avoir parfois les téléspectateurs des différentes émissions de télé. Là, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une volonté de plus en plus présente à la télévision de revenir sur des anciens concepts. Bon, on le voit de manière générale, on vient juste d'en parler avec Secret Story, avec la Starac, mais plus généralement sur les jeux, avec le retour du juste prix récemment. Et là, cette volonté aussi de faire revenir en prime pour des événements, mais qui finalement sont des événements qui permettent aussi de voir si le public répond présent ou pas. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi une envie de pérenniser voilà, ces jeux, de les faire revenir à échéance un peu plus régulière? Je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de vouloir faire revenir comme ça, un peu de manière ponctuelle, certains jeux. Je pense que le maillon faible est un jeu qui a quand même marqué beaucoup d'esprit. Alors, effectivement, le fait de le faire revenir avec cet animateur-là, sur cette chaîne-là, bon, on perd un peu l'esprit même du maillon faible, mais pour ce qui est de qui veut gagner des millions, honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui, pour le coup, avait fait un retour qui n'était pas digne du jeu avec Camille Combal. Et puis en plus, il y a eu entre-temps, il y a eu la période Covid où du coup, on se retrouvait avec un qui veut gagner des millions à distance, avec des gens qui répondaient aux questions depuis chez eux, enfin des personnalités qui répondaient aux questions depuis caméra interposée. On a eu tout et n'importe quoi qui a été fait avec ce jeu qui pourtant avait marqué plus, enfin qui avait marqué pas mal d'esprit. Donc le fait de vouloir le faire revenir comme ça de manière assez ponctuelle, pourquoi pas, honnêtement ça peut être très sympa. Et je reste assez convaincu sur le choix d'Arthur. C'est voilà, je suis pas fan de ce qu'il fait de manière générale, notamment dans Vendredi tout est permis. Néanmoins, je trouve que lorsqu'il anime le grand concours, il est pas mauvais. Et pour le coup, je pense qu'il sera même plutôt bon là dans le maillon faible. Donc pourquoi pas. Donc il veut gagner des millions, pardon. Donc pourquoi pas.
Pourquoi pas tu donnes une idée à M6, hein.
Non mais en réalité, je me dis voilà, je suis pas fermé à un retour de ces jeux-là.
Louis, toi aussi, donc ce retour en force des gens en prime time, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une bonne chose? On voit les samedis, ça cartonne sur France 2 avec Cyril Ferraud. Les chaînes veulent aussi avoir leurs gens en prime time qui cartonnent.
Oui. Bah après, c'est quand même, ça coûte moins cher aux chaînes de télévision de faire ça que d'inventer un format. C'est important de le rappeler. D'ailleurs, j'entendais juste dans le débat d'avant sur Secret Story que ça allait coûter beaucoup d'argent à TF1. Ça coûte beaucoup moins d'argent à TF1 de faire Secret Story que de créer un nouveau format. C'est quand même très important de le rappeler. Ensuite, bah sur le reste. Bah en fait c'est une évolution, pourquoi? Parce que on est face à une réalité où les annonceurs quittent de plus en plus la télévision pour se diriger vers les plateformes, et donc à partir de ce moment-là, faire revenir des programmes et des marques qui ont marché dans les années 2000 entre autres, eh bien fait que ça les fait revenir, et c'est en fait une concurrence directe au binge watching. En fait, je sais plus qui disait ça, c'est dans un papier que j'ai lu cette semaine, c'est une chercheuse qui disait ça, et à partir de là, tu comprends la réalité, la réalité des chaînes et à quoi elles sont confrontées. Par contre, en fait, ce genre de format, finalement, il coûte plus cher aux boîtes de prod. Et c'est-à-dire parce qu'elles doivent mettre beaucoup d'argent pour avoir la marque, en fait. C'est surtout ça. Donc, finalement, en fait, on est face à un modèle où on est face à des restrictions budgétaires de la part de toutes les chaînes, parce que justement les publicités ont fortement baissé, et donc on se retrouve avec une réalité où on préfère faire revenir, justement parce que ce sont des marques fortes, et bien on préfère faire revenir des marques fortes qui ont bien marché, parce que ça crée des rendez-vous, et ensuite et bien ça coûte moins cher et ça rapporte un peu plus d'argent. Sauf qu'à un moment donné, cette idée a des limites. Alors, pour le moment, ça marche, mais à un moment donné, bon... Est-ce que finalement, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te bases, en fait, en faisant revenir des marques, c'est-à-dire que tu fais vieillir ton public. Alors, le public de la télévision est déjà vieux, mais c'est-à-dire que ceux qui regardaient, par exemple, la Star Academy à 30 ans, aujourd'hui, la regardent à 50. avec leurs enfants, qui est peut-être encore un dernier programme, un des derniers programmes intergénérationnels.
Je trouve que c'est pas un programme le bon exemple, parce qu'il a su trouver un nouveau public. Il y a plein de jeunes qui ont découvert les deux dernières saisons.
Oui,
c'est
important de rappeler que la Star Academy, les jeunes l'ont énormément découvert grâce aux extraits qu'il y a sur TikTok. C'est aussi ça qui fait le succès de la Star Academy. C'est parce qu'il y a énormément de petits extraits de moments de vie qui ont fait marrer un peu tout le monde et que y en a qui se sont...
Oui, il y a des petits de vie sur TikTok et Twitter, tout ça.
Et exactement. Mais sinon, globalement, quand tu te rappuies sur Secret Story, moi, je penserais sincèrement que Secret Story, tu vas pas aller chercher de nouveaux jeunes. Par contre, tu vas aller chercher les jeunes qui ont déjà regardé Secret Story, qui ont aimé Secret Story et qui ont vieilli avec Secret Story. Donc voilà.
Est-ce que ça peut être la même logique que Star Academy, que les séquences qui vont
vivre. C'est mon seul avis que j'ai et je dis pas grand chose parce qu'il y a un sujet important après, donc voilà.
Oui. Baptiste, rapidement.
Tu vois, là, ça t'emmerde que j'ai dit ça, parce que ça veut dire quoi dans le
faire. Je sais pas de quoi tu parles. Est-ce qu'on parle du même sujet ou pas, mais on verra. Baptiste,
vas-y. Bah, c'est vrai que je vais rejoindre un peu Damien. C'est vrai que mettre des shows en prime, c'est devenu maintenant une habitude pour beaucoup de chaînes.
Avant, il y avait eu une vraie mode.
Bah, France 2 et France 3 avec la carte au trésor, mais France 2 aussi avec le The Floor à la conquête du sol et 100% logique et un format
le plus des champions
et un format étranger qui l'ont étendu sur 2 heures. Donc TF1 s'est dit on va faire la même chose. Après avec qui veut gagner des millions, ils fêtent les 25 ans, donc c'est logique que
c'est un prétexte, comme le disait Damien, pour faire quelques numéros anniversaires.
Oui, et puis tant mieux. Ça, après Arthur, c'est pas un mauvais choix non plus parce que dans le grand concours, il est plutôt bon. Maintenant, le maillon faible.
Arthur, il coproduit le jeu, si je dis pas de bêtises.
Qui veut
gagner des millions.
Le maillon faible. Je sais pas. Je sais pas trop. Ça va dépendre à quelle case ils vont le mettre.
C'est du prime.
Non, mais quelle case dans la semaine. Parce que il y a maintenant c'est.
M6, c'est la programmation. On aime bien M6.
Ils sont pas les rois de la programmation, hein.
Voilà, donc.
En tout cas, ça dépend.
À tout moment, ils le programment le samedi à 21h, donc.
Franchement, j'y crois pas trop, le maillon faible.
Ouais, moi aussi, c'est vrai que, après, j'ai rien contre Vincent Dedienne, mais. Ouais. Pour finir, Benji, rapidement, petit tour de table, donc sur ce retour en force des gens en prime time.
Ouais, c'est un retour en force qui a déjà lieu depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a Cyril Ferraud qui a eu 100% logique, tout de suite, ça a été la course. On a Arthur qui a proposé quoi cet été, qui avait flop
The Wheel, je crois, non ?
Ouais, voilà, The Wheel. Même TF1 fait souvent des jeux en été. Après, Cyril Ferraud a renouveau cartonné avec The Floor. Voilà.
Donc, c'est surtout du côté d'M6, la dynamique qui avait pas trop de jeux et que là, en espace de quelques mois, il y en aura deux sur son antenne.
Peut-être. Moi, je pense que c'est surtout peut-être aussi un effet du départ de Nicolas Taverneau, parce que Nicolas Taverneau est connu pour ne pas aimer les jeux, ce qui est assez étonnant au vu de sa réputation même de radin et du fait que les jeux sont les programmes les moins chers quasiment les moins chers en inédit. Donc, c'est assez contradictoire, mais. Peut-être, je pense que c'est surtout dû, peut-être au fait que De Taverneau n'aimait pas les jeux et que là, avec le nouveau patron de M6, ça va peut-être changer les choses. Mais après, c'est un retour qui a lieu sur quelques années, qui a eu lieu sur déjà plusieurs années. Ça a très très bien marché pour France 2. Ça a moyennement, voire pas marché pour TF1 pour l'instant.
C'est pour ça que peut-être ils ont vu avec des nouvelles créations comme Joey. Et j'ai vu peut-être qu'avec des nouvelles créations, ça marchait pas forcément, et que là, ils se sont dit, peut-être, on va tester ça avec des jeux qu'on avait déjà sous la main.
Mais c'est ce que demande Twitter, si on caricature un peu. Après, Twitter...
Twitter demande plus Money Drop. Moi, par exemple, si tu me remets Money Drop, je regarde. Moi, c'est un jeu qui m'a plus marqué que qui veut gagner des millions. Personnellement, okay, je ne vais pas me dire, ah oh, ouais, il y a qui veut gagner des millions. Par contre, Money Drop, moi, en tout cas, c'est mon avis personnel. Si ça revient à la télé, je regarderai les premiers numéros, en tout cas.
Moi, c'est un jeu qui m'a marqué. Moi, tu es aimé, on m'a bien marqué. Donc, après.
C'est subjectif. Hein, voilà, c'est chacun a été marqué par différents jeux. Mais ouais.
Après, ouais, non, franchement, à voir pour M6, ce qu'ils vont tenter. Le juste prix, ça va peut-être aussi les refroidir un petit peu au vu des audiences actuelles. Donc, bon, à voir aussi comment marche Vincent Dedienne. Hein. Franchement, c'est un pari, c'est une émission, je veux dire, ça n'engage pas.
Là, c'est avec des célébrités, donc, ouais. Donc,
Et puis, M6 n'a pas mis beaucoup de jeux ces derniers temps.
Oui, c'est ce que je disais, oui, M6 c'est les jeux.
M6 n'est pas, entre guillemets, n'est pas la chaîne des jeux télé. Hein. Parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu un jeu télé sur M6. Hein.
Oui, mais il n'y en avait quasiment pas. Hein. Sur M6, c'est depuis ces derniers mois. Peut-être Louis, tu voulais faire peut-être un point sur les droits télé au niveau de la Ligue 1, puisque ça a bougé ces derniers jours, avant qu'on clôture l'épisode.
Assez rapidement sur les droits télé, oui, parce qu'on s'était quitté il y a un mois sur deux choses qu'on avait dit, parce qu'on était plutôt sûr de ces informations-là, sur le fait que la Ligue 1 serait un tandem, il y aurait un tandem entre DAZN et Beansport. Visiblement ça a bougé, visiblement DAZN est hors course désormais. Pourquoi DAZN est hors course? Parce que DAZN n'a pas augmenté son offre du côté de la Ligue de football professionnel, et surtout qu'on est face à quelque chose de très important, c'est que on se heurte enfin à la question, mais combien vaut la Ligue 1, et que la LFP est incapable de vendre la Ligue 1 à plus de 900 millions d'euros. Ça, c'est ce qu'on savait depuis le début, mais c'est ce que la Ligue voulait s'obstiner à croire, et visiblement on peut pas vendre je vais inventer une expression, on peut pas vendre des œufs vides en faisant croire qu'ils sont en or finalement. Donc tu vois, c'est. Franchement, mais je peux inventer une nouvelle expression, c'est magnifique.
Est-ce que la Ligue 1 coûte pas trop cher justement?
Ben en fait si, la Ligue 1 coûte beaucoup trop cher, et en fait surtout. Mais
c'est pour ça qu'ils trouvent personne entre guillemets.
Alors ils trouvent personne, mais jusqu'à l'intervention quand même du président de la République. Où je vous rappelle, il y a un mois, un peu plus d'un mois, il y a eu un dîner d'État entre la France et le Qatar, et le sujet des droits télé était évidemment sur la table, puisqu'il y avait au niveau de la table du président, il y avait le président, l'émir du Qatar, le président de Beansport, Nasser Al-Khelaifi, qui est aussi président de Paris Saint-Germain, et le président de la Ligue de football professionnel. Et donc il y a eu des discussions, et aujourd'hui Beansport est peut-être va certainement rafler beaucoup de choses, mais va peut-être tout rafler aujourd'hui. C'est ce qu'a révélé RMC. Donc on va voir ce que ça.
On part aujourd'hui
sur Beansport, mais finalement en fait il y a quand même un grand gagnant qu'on ne soulignera jamais assez. Mais c'est la réalité. Le grand gagnant pour moi, c'est Canal+. Pourquoi c'est Canal+? Parce que tout simplement que Canal+ est le seul diffuseur qui est aussi distributeur, et qu'avec l'accord de distribution qu'ils ont signé avec Beansport, qui a un énorme accord de distribution et qui je crois est exclusif, si je dis pas de bêtises, et bien c'est-à-dire que à moins que tu passes par Beansport Connect, c'est-à-dire la plateforme en ligne de Beansport, pour avoir la Ligue 1, il faudra forcément passer par Canal+.
Louis, petite question.
Oui, on va pas faire des heures, déjà on est en retard, mais pour résumer, Louis, donc on part sur Beansport et avec un accord avec Canal.
Voilà, et certainement une offre Canal qui va être une offre Canal et Beansport qui va être couplée avec la Ligue 1.
Eh ben, on suivra, à mon avis, vu que c'est début août, on aura le résultat.
Le dénouement est dans les 15 prochains jours. Hein, donc,
eh ben voilà, ben, on dit.
Il y a pas Denis Brognard pour ça.
Tu nous redonneras des nouvelles. Merci Louis, merci beaucoup. Bon, on n'aura pas parlé de Quentin Bataillon, mais bon, c'est futile, hein, voilà, ce qui s'est passé.
C'est l'heure
de il n'y a rien à dire. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission retour. Hein. Il y avait beaucoup de choses à dire cette semaine. Merci Benji, merci Baptiste, merci Damien qui a fait son retour enfin. Et merci Louis. On revient nous la semaine prochaine pour commenter encore toute l'actu média. D'ici là, passez une bonne semaine. Salut.